Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Plus de 20 ans après la guerre de Yougoslavie, suite de conflits nationalistes, identitaires et religieux, plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés, que reste-t-il de ces tensions ? Bonjour Xavier Bougarel. Vous êtes historien, chercheur au CNRS et auteur de « Survivre aux empires » aux éditions Kartala. La condamnation de Ratko Mladic va-t-elle avoir des conséquences dans la région, selon vous ?
Alors, en tant que tel, je ne pense pas qu'elle aura de grandes conséquences. C'est surtout la fin d'un long processus, c'est-à-dire des jugements de plus d'une centaine de criminels de guerre à La Haye. La peine de Ratko Mladic, sa condamnation à la prison à perpétuité, était assez attendue. Le vrai enjeu du procès, c'était de savoir si seul le massacre de Srebrenica serait qualifié de génocide ou si l'ensemble des crimes de l'armée serbe de Bosnie-Herzégovine passerait sous cette qualification.
Et alors justement, à cet égard, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on peut dire que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ne retient que le massacre de Srebrenica sous la qualification de génocide. Les autres crimes de l'armée serbe de Bosnie-Herzégovine sont qualifiés de crimes contre l'humanité.
Donc, en partie, la réponse est faite. Pour le reste, les partis nationalistes qui ont provoqué la guerre, ou en tout cas qui l'ont attisé, dans quel état sont-ils ? Peut-on considérer aujourd'hui que les tensions sont retombées dans la région ?
Alors, si on parle de la Bosnie-Herzégovine, les élites nationalistes nées de la guerre sont toujours là. Mais ce qui a disparu, c'est la mobilisation politique des populations. Il n'y a plus de forte mobilisation nationaliste comme il pouvait y avoir dans les années 90. Et ce constat vaut également pour d'autres régions de l'ex-Yougoslavie, que ce soit le Kosovo, la Croatie ou la Macédoine.
On a toujours du mal à savoir distinguer dans cette région ce qui relève du religieux, du politique et de l'ethnique. Aujourd'hui, est-ce que vous y voyez plus clair, Xavier Bougarel ?
Alors, la particularité de cette région et des Balkans plus généralement, c'est les liens étroits qui unissent identité nationale et identité religieuse. Bon, c'est particulièrement flagrant en Bosnie-Herzégovine, où les Serbes sont orthodoxes, les Bosniaques sont musulmans et les Croates sont catholiques. Ces liens étroits entre identité religieuse et identité nationale existent toujours aujourd'hui. Mais de même qu'il y a fin des mobilisations nationalistes, eh bien l'identification du national et du religieux ne se traduise pas forcément par un retour du religieux. Les populations de la région restent largement sécularisées.
Est-ce que ça veut dire que maintenant que des pays ont été créés, maintenant qu'on a une division avec le Kosovo, le Monténégro, alors on a pu aussi discuter du caractère un peu artificiel de ces pays, est-ce que l'on a enfin des gens qui ne voulaient plus vivre ensemble et qui du coup, protégés par des frontières, eh bien peuvent coexister en tant que voisins ?
Alors, ils coexistaient en tant que voisins avant la guerre et beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le problème de certains de ces nouveaux pays, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la formule institutionnelle leur permettant de fonctionner de façon satisfaisante. C'est le cas de la Bosnie-Herzégovine, où on a une construction institutionnelle très complexe. C'est le cas du Kosovo, où la communauté serbe n'a pas encore trouvé sa place. C'est aussi la Macédoine qui avait connu un bref conflit armé en 2001 et où les rapports entre Macédoniens et Albanais ne sont toujours pas réglés.
Alors ces rapports ne sont pas réglés, ça, et c'est quelque chose que l'on peut voir. Est-ce qu'il y a d'autres velléités indépendantistes dans la région ?
Pas vraiment. C'est-à-dire la fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte dans les années 90 avec la fin de la guerre froide. Toutes les redéfinitions du rôle de l'Union européenne, de l'OTAN, etc., qui les a accompagnés, cette fenêtre d'opportunité s'est refermée. Donc il y a des revendications politiques qui s'expriment très fortement chez les Albanais de Macédoine, chez les Serbes du Kosovo, chez les Bosniaques du Sandjak, donc dans le sud de la Serbie. Mais on voit mal comment on aboutirait à de nouvelles indépendances aujourd'hui.
L'autre inquiétude dans la région, c'est le devenir d'une partie donc des musulmans avec semble-t-il, des processus de radicalisation en cours, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque des guerres de Yougoslavie. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire quelle est la situation sur le front de l'islam radical dans la région ?
Alors, l'apparition de l'islam radical ou du néo-salafisme date de la guerre, hein, avec la venue de combattants étrangers venant pour partie d'Afghanistan. Mais il ne faut pas exagérer l'importance de ce phénomène. Le néo-salafisme reste relativement marginal dans les Balkans. Le néo-salafisme n'est pas forcément violent et djihadiste. Et de mon point de vue, l'apparition du néo-salafisme dans les Balkans traduit surtout une pluralisation de l'islam dans les Balkans, et en ex-Yougoslavie en particulier. C'est-à-dire les néo-salafistes font partie d'un paysage religieux qui est devenu extrêmement pluriel, en partie du fait d'influences extérieures, mais influences extérieures qui ne se réduisent pas à celles du néo-salafisme.
Donc vous seriez plutôt rassurant à cet égard ?
Oui, je serais plutôt rassurant, c'est-à-dire que je pense que, de même que l'extrême droite est le résultat du pluralisme politique, eh bien le néo-salafisme est aussi le résultat du pluralisme religieux.
Ce qui veut dire que finalement, pour cette région des Balkans, et on a vu quelles pouvaient être les conséquences en matière de création étatique, ça veut dire aussi que finalement, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il a en partie rempli son rôle, si l'on considère que son rôle était aussi de guérir un peu les plaies de la région.
Alors, je serais plus nuancé sur ce plan-là, c'est-à-dire la fonction qu'a rempli le tribunal pénal international, c'est un processus de justice, c'est-à-dire justice a été rendue, et ensuite ces processus de jugement des criminels de guerre sont poursuivis à l'échelle nationale en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Serbie, etc. Donc, sur cette question de la justice, le tribunal pénal international a été très efficace, même si certains jugements peuvent être contestés. Maintenant, on avait placé beaucoup d'espoir dans ce tribunal en ce qui concernait la réconciliation d'une part et puis l'écriture de l'histoire d'autre part. Mais je pense qu'on avait, ce faisant, on avait assigné au tribunal pénal international des tâches qu'il ne pouvait pas remplir et qui ne faisaient pas partie de son mandat.
Vous avez écrit « Survivre aux empires », Xavier Bougarel, et lorsqu'on voit justement cette région des Balkans, on se dit que l'Empire austro-hongrois était finalement une entité éminemment pacifique par rapport à ce lieu qui est plein de conflits potentiels.
L'Empire austro-hongrois était éminemment pacifique, pas complètement quand même. Il a une certaine responsabilité dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais je dirais aussi que l'Empire yougoslave était éminemment pacifique. La Yougoslavie était, de mon point de vue, une formation impériale, et ce à quoi on a assisté dans les années 1990, c'est à la fin violente d'un empire.
Voilà, une manière de réévaluer le rôle des empires, même si ceux-ci paraissent très lointains pour cette région du monde. Merci Xavier Bougarel d'avoir été avec nous ce matin.